Merci et merci encore. Vous êtes si nombreux à m'écouter depuis les États-Unis, le Canada, la France, la Suisse, la Belgique, la Malaisie, l'île de la Réunion et aussi de nombreux pays de la francophonie. Merci encore pour votre écoute et votre assiduité à travers les épisodes. Vous êtes nombreux aussi à me laisser des messages sur WhatsApp, Messenger, le blog, YouTube, après avoir écouté les épisodes. Donc, j'ai décidé d'inaugurer une libre antenne que j'appelle PAEF Info Réaction. Le but est de permettre de répondre à vos questions, mais aussi de vous poser vos questions sans filtre. Alors, pour garantir l'anonymat des personnes qui m'interpellent à travers les réseaux sociaux, j'ai décidé de modifier les prénoms et les situations et les âges de chacun. Merci. Et donc, allons-y voir les premières questions qui sont tombées sur les réseaux sociaux. Allons-y voir la première question. Bonjour, monsieur Fauché. J'ai un ado et une petite fille. Entre le loyer, les courses, mon salaire ne suffit pas. Bon, celle-là, elle ne manque pas d'humour. Donc, déjà, mon salaire ne suffit pas. C'est-à-dire que les sorties sont supérieures aux entrées. Moi, je vous invite à faire vos comptes. Donc, utilisez d'abord une feuille de papier, tracez une colonne à gauche, une colonne à droite, les entrées et les sorties. Faites la différence entre les entrées et les sorties. Si vous voyez que les sorties sont supérieures aux entrées, dans ce cas, il faut rentrer dans le détail et voir, par exemple, qu'est-ce qui plombe aujourd'hui votre budget. Alors, en général, pour les familles, donc il y a le loyer, mais le loyer, c'est une dépense qu'on ne peut pas bouger tout de suite, à moins de déménager ou de faire une opération spécifique. Mais sinon, c'est les dépenses fluctuantes comme l'alimentation, les courses, le transport et bien d'autres. Il faut regarder en détail. Peut-être que vous devriez songer à acheter des légumes, à acheter plus de produits pour faire vous-même vos plats, à chasser les dépenses, par exemple, de gaspillage comme l'électricité ou des choses comme ça. Il faut vraiment vous poser et regarder ligne par ligne qu'est-ce qui plombe votre budget. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis, si vous avez besoin vraiment de vous y prendre, donc voilà, vous prenez le bloc-notes et puis de façon plus automatique, je vous invite à télécharger un agrégateur de comptes. Ça vous permet de les classer automatiquement et de regarder par famille. J'espère avoir répondu à votre question. Voyons voir la question numéro 2 posée par un étudiant étranger. Bonjour, je suis étudiant étranger. Pas de bourse, mes parents m'envoient 350€ par mois. Il me manque 100€ dans mon budget. Que faire? Alors, c'est vrai qu'il est difficile quand on est étudiant de vivre en dessous de 500€ par mois. Donc, premièrement, ce que je vous invite à faire, pareil. Donc, quand vous avez votre pension versée par la famille, ce que vous devriez faire, c'est faire des priorités. Quand j'étais étudiant, moi, je payais d'abord mon loyer, puis je faisais mes courses, et puis le reste, j'essayais de voir entre ce que je devais payer comme dépenses alimentaires, si j'avais des petites courses à l'école. Mais je faisais ça par priorité, et je vous avoue que en dessous de moins de 500€, c'est très compliqué. Donc, il faut réfléchir soit pendant les vacances, soit pendant l'année scolaire, à vous trouver un travail à mi-temps, histoire de combler et de compléter vos revenus. Voilà, merci, j'espère avoir répondu. Donc, voyons voir la question qui est posée par un père de famille, qui dit « Je suis père de famille, je rembourse deux prêts, un prêt auto, un prêt personnel parce que j'avais acheté des billets pour aller au bled, et j'ai aussi pris un canapé que je paye en 20 fois sans frais, dans le rouge tous les mois, quelle solution ?» Alors, j'ai envie de dire une chose. Déjà, vous avez deux prêts et vous avez aussi un paiement en plusieurs fois sans frais. Peut-être qu'il y a une piste pour regrouper et racheter tous vos prêts et en faire une mensualité, quitte à étaler un petit peu la dépense, mais ça vous permettra peut-être d'être au-dessus au niveau du compte. Explorez cette piste, ça vous soulagera vraiment au quotidien. Question numéro 4, c'est une question posée par une jeune femme de 28 ans qui touche le RSA. Elle dit, voilà, j'ai 28 ans, je touche le RSA. J'ai 60 euros de frais bancaires tous les mois. Que faire? Alors, typiquement, une personne qui a le RSA, c'est environ 500 euros et quelques, et qui a beaucoup de frais bancaires, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été refusées par la banque, ce qui a entraîné des frais d'incident. Donc, dans un premier temps, il faut immédiatement prendre rendez-vous avec votre conseiller et voir, par exemple, d'où viennent ces frais d'incident. Peut-être qu'il y a des échéances à décaler. Et aussi, vous êtes sans doute éligible à l'offre destinée aux clients fragiles. Et revoyez aussi vos moyens de paiement. Ça permettrait d'éviter de futurs incidents. Mais tout de suite, faites-vous accompagner par votre conseiller. Voilà. La question suivante, là, il s'agit d'une jeune femme aussi, qui a 30 ans, qui m'écrit et qui dit « Je ne comprends rien à mon compte. Pouvez-vous m'aider à comprendre son fonctionnement ?» Alors, pareil pour tout à l'heure. Donc, pour comprendre le fonctionnement du compte, il faut tout simplement se servir d'outils. Vous avez aujourd'hui les agrégateurs de comptes. Vous avez Banking, Linxo et bien d'autres. Téléchargez-les. Regardez qu'est-ce qui se passe en détail dans votre compte. Qu'est-ce que vous avez comme entrée d'argent? Est-ce que c'est des salaires, c'est des revenus, c'est des allocations? Et qu'est-ce que vous avez comme sortie? Et puis, regardez par famille, est-ce que c'est plutôt lié à l'habitation? Est-ce que c'est plutôt lié au transport? Et par-delà, vous allez comprendre comment fonctionne votre compte. Et vous avez aussi votre relevé bancaire qui est envoyé tous les mois. Mais par ce biais-là, vous allez comprendre globalement comment sont organisées vos entrées et vos sorties sur le compte. Et puis, une fois que vous faites cette première approche, vous y verrez déjà un peu plus clair. Autre question d'une jeune femme aussi, elle a 23 ans. Dis donc, les femmes ont beaucoup de questions. Donc, alors, elle me dit « Coucou, j'ai 23 ans, c'est ma mère qui gère mon compte. Elle n'arrête pas de m'engueuler. Je ne fais pas attention aux dépenses. Aidez-moi à comprendre. » Donc, pareil, donc à 23 ans, je pense qu'on est un peu majeur, même si c'est maman qui paye les dépenses ou qui finance le compte. Donc, la première chose, c'est déjà d'inventorier, de lister quelles sont vos dépenses, quelles sont vos entrées. Et par-delà, peut-être qu'il faut demander à consulter le compte depuis votre téléphone avec l'application de la banque où la carte elle est rattachée et regarder un petit peu au jour le jour qu'est-ce qui se passe, regarder s'il y a des dépenses récurrentes. Ça vous permettra de faire un peu attention et puis de vous assurer que vous avez de l'argent avant d'utiliser la carte. Et puis, ça fera moins d'engueulades à la maison, ça vous responsabilise un tout petit peu. Merci. Autre question, là, il s'agit d'un anonyme complet. Donc, il m'écrit « Bonjour, je crois que ma banque me vole mon argent, ça s'évapore, comment avoir le contrôle du compte ?» Alors, très bien, sachez que les banques sont hyper contrôlées, donc la banque ne peut pas voler votre argent, mais il est temps, comme tout à l'heure, à la question précédente, de regarder en détail vos relevés, de regarder en détail vos opérations et de savoir où votre argent partent tout simplement. Ça permettra de lever des malentendus et puis n'hésitez pas à appeler votre banquier pour lui poser des questions sur les opérations, comment c'est facturé, mais il n'y a pas de vol dans votre compte. Il faut juste regarder en détail où va l'argent. Autre question de Jean. Jean, il nous dit « Quand je regarde mes opérations, cela ressemble à rien. Je ne sais même pas ce que je fais de mon argent. » Alors, on a beaucoup de gens qui se posent la question « Où va l'argent ?» Ben, c'est tout simple. L'argent rentre par un seul canal et puis ça sort par plusieurs trous. Donc, il faut regarder cela. Et puis, quoi de mieux que de regarder le relevé, de regarder via l'application bancaire de la banque ou via un agrégateur où va l'argent. C'est aussi, aussi simple que ça. Alors, j'ai une question d'un certain Adji. Alors, Adji me dit « Je suis contre la consommation de masse. Amazon, je ne sais pas du tout mon truc. J'aime aller faire mes courses à côté. Je recherche des commerces éthiques. » Alors, très bien. J'aimerais bien vous recommander des commerces éthiques, cher Hadji, mais sachez que aujourd'hui, il y a d'autres façons de consommer. Par exemple, vous pouvez consommer local. Regardez là où vous vous situez. Vous pouvez trouver des producteurs ou des petits commerçants qui forcément vendent auprès des habitants. Donc, n'hésitez pas à les solliciter directement. N'hésitez pas à vous renseigner s'il y a des associations de consommateurs ou s'il y a des associations qui regroupent des producteurs locaux. Cela vous permettra sans doute de connaître les commerces équitables ou les producteurs de proximité pour pouvoir consommer à côté. Voilà, merci, à très bientôt. Attaquons une autre question. Donc, alors celle-là, elle est très bien rédigée. Cher blogueur, je suis dans le flou artistique. Je ne suis pas du tout mes comptes. Il est impossible de planifier mon petit projet. Impossible de planifier un budget. Que faire ? Alors, à ce cher internaute qui m'écrit en s'adressant au cher blogueur, alors. En matière de budget et de finances personnelles, il n'y a pas de flou artistique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme projet ? Combien votre projet, en fait, il vous faut pour le réaliser ? Combien de temps il vous reste ? Il faut voir le délai, il faut le planifier. Mais aussi, comme tout le monde, pensez à faire vos comptes, les entrées, les sorties. Et puis, par rapport à votre budget, s'il vous reste un peu d'argent sur le compte, est-ce que vous pouvez épargner mensuellement ou épargner régulièrement, comme bon vous le semble, justement pour préparer votre projet. Merci, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, j'ai une autre question qui commence par SOS. J'ai beaucoup de frais, beaucoup d'intérêts débiteurs, des frais d'anomalie, d'incidents. Est-ce une invention de la banque pour me prendre mon pognon ? Oui, très bonne question et une question pertinente. Sachez que la relation qui vous lie avec votre banque, c'est une relation, on va dire, commerciale. Donc, la banque vous propose des services et vous, vous payez en échange de ces services. Donc, et puis, si vous avez des services en dehors, additionnels ou des services qui contreviennent au fonctionnement de cette relation, vous serez amené à être facturé. Donc, raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à prendre un petit rendez-vous téléphonique avec votre banque, justement pour faire le point et la lumière sur les services. Et puis, consulter régulièrement le guide tarifaire qui est actualisé tous les ans pour voir les services qui sont facturés par la banque. Une question d'un certain Ali. Alors, Ali m'écrit, depuis que j'ai eu un incident sur un chèque rejeté il y a quelques mois, la banque m'a clôturé mon compte et je suis fiché à la Banque de France. Je galère avec la carte prépayée. Comment régler cela ? Alors, si vous êtes fiché à la Banque de France et que votre compte est déjà clôturé dans cette banque, premier réflexe à faire, c'est de vous adresser à la Banque de France de votre région ou de votre ville. Regardez sur Internet Banque de France, tapez juste avec la géolocalisation. Vous y allez, ils vont vous sortir l'établissement qui vous a fiché et puis vous pouvez vous rendre dans cet établissement avec des espèces ou trouver quelqu'un qui peut vous prêter un chèque et allez-y le déposer pour régulariser votre situation. Une fois que la situation est régularisée, vous serez défiché. Donc, c'est une démarche qui prend un peu de temps, mais allez-y, c'est très bien fait. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Donc, cette fois-ci, c'est un client qui est un peu insatisfait, mais content, qui est mon conseiller bancaire m'énerve. Je n'ai pas besoin de lui. J'ai besoin de rien. La carte coûte trop cher. Est-ce que tu as une solution ? Alors, très bien. Alors, ça, c'est typiquement le cas d'un client ou d'une cliente qui ne fréquente pas du tout les établissements bancaires, qui est autonome et qui trouve que tout est cher. Alors, sachez que les services bancaires ne sont pas gratuits. La banque n'est pas une association de loi 1901, donc il est important de faire son propre bilan, qu'est-ce qu'on a besoin, et si on a besoin de rien, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut envisager d'aller voir les néobanques ou les banques en ligne, ou peut-être que les services ne sont pas facturés, mais attention, parce que tout n'est pas gratuit, regardez, faites un comparateur, allez-y, faire un comparateur des banques, regardez selon les services, qu'est-ce qui est mieux pour vous. C'est très important de procéder comme ça. Alors, j'ai une question de Gaël. Je travaille en CDI. Je voulais 3000 euros de prêt pour acheter ma voiture, refus mon prêt sans explication. Il y a juste un mois, mon salaire était arrivé en retard et des paiements sont refusés. Aidez-moi à comprendre. Donc, sachez que des petits incidents ou des incidents sur le compte ou le fonctionnement du compte peut être une source d'insatisfaction vis-à-vis de la banque, comme quoi le compte ne fonctionne pas de façon optimale. Donc dans ce cas-là, si ça se répète et puis aussi quand il y a un refus sur un prêt, ce n'est pas que ça, il y a aussi d'autres choses derrière. Donc il faut aller creuser. Peut-être que votre conseiller vous en dira un peu plus sur ça. Allez creuser pourquoi le prêt est refusé. Est-ce que c'est le projet était surdimensionné? Est-ce que vous n'avez pas les capacités de rembourser? Mais allez-y le voir en lui disant, bon voilà, est-ce que dans un futur vous pourriez m'accorder votre confiance, qu'est-ce que je peux faire pour avoir votre confiance? Merci. Donc, nous reprendrons tout à l'heure avec d'autres questions posées par les internautes. Cette question-là est hyper intéressante. Un compte sans frais existe-t-il? Si oui, où l'ouvrir? Je ne suis pas une vache. Allez, bon, c'est une question très pertinente. Alors, j'ai envie de dire un compte sans frais aujourd'hui dans l'état actuel. Si vous prenez les banques de réseau classiques qui ont des agences partout, cela n'existe pas parce qu'il y a un minimum de frais de tenue de compte. Et surtout s'il n'y a pas de salaire qui est domicilié. Mais il existe des établissements en ligne qui ne prennent pas de frais juste pour l'ouverture du compte. Mais encore une fois, vigilance, il faut se rapprocher de cet établissement pour lire les conditions. Et bien sûr, vous n'êtes pas une vache à lait, mais sachez que tout service a une contrepartie. Et la contrepartie, c'est le paiement de ce service. Donc renseignez-vous, peut-être que vous devriez regarder quels sont les services que vous pourrez vous faire vous-même et puis que ceux que vous êtes prêts à payer et puis faire un comparatif au niveau des tarifs. Cela est très, très judicieux. Voilà. L'autre question, donc c'est une question, bon, je n'ai pas beaucoup de précisions, mais la question, c'est la suivante. Cela fait un an que je n'arrive pas à sortir du négatif. Le salaire est versé et c'est juste pour combler mon découvert. Et ma carte m'a été retirée. Est-ce que c'est normal? Alors, j'ai envie de dire, il n'y a rien de normal dans cette situation parce que ça fait un an que vous êtes dans le découvert. Peut-être que vous avez des dépenses supérieures à vos entrées et que vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. Il faut vous faire accompagner. Et si votre carte vous est retirée, c'est parce qu'il y a une utilisation abusive de cette carte. Sachez que la carte bancaire appartient à l'établissement bancaire, donc elle a le droit de vous la suspendre ou de la vous retirer suite à une utilisation abusive qu'elle estime. Donc, allez-y aussi, appelez votre banque et puis demandez justement des solutions pour sortir de ce découvert chronique parce qu'il faut trouver une solution, peut-être adapter aussi la carte, une carte avec consultation de solde qui est plus adaptée à cette situation plutôt que des cartes de Visa ou de crédit classiques proposées. Voilà, explorez cette piste. Alors, la prochaine question, là il s'agit d'un touriste. Je dois acheter mes billets pour le Bled, je dois les prendre en ligne, puis-je utiliser mon découvert payant? Alors, sachez que tout dépend du montant de votre découvert. Si c'est un découvert qui fait l'équivalent de votre salaire, une très 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 mauvaise solution. Si c'est juste un dépassement de 300 euros, mais que vous pouvez combler et ne pas vous exposer à des dépassements ou à des refus de paiement, pourquoi pas? Mais sachez que pour votre billet du Bled, il existe des solutions aussi d'étaler votre billet ou d'étaler le paiement. Peut-être que vous payerez plus cher via une agence si vous ne le payez pas en ligne, mais ça ne vous mettra pas en porte-à-faux de la banque. Piste à explorer. Voilà. Autre question. Depuis que je suis marié, religieusement, je suis seul à m'occuper des comptes à la maison. Mon mari garde son salaire sur son compte personnel. On paye beaucoup de frais. Ça m'énerve. Comment lui en parler? Alors, c'est un sujet qui est très délicat. Donc, ce n'est pas le fait que vous soyez marié religieusement ou civilement. C'est juste un problème de fonctionnement, donc il faut s'ouvrir et puis l'inviter au dialogue en disant, bon voilà, nous avons tel compte, nous avons telle dépense, nous avons telles entrées, telles sorties, comment faire? Et puis lui demander si lui, il a des solutions. Sachez qu'il y a eu un épisode que j'avais beaucoup parlé de comment parler argent dans le couple sans clash. Ça devrait vous aider, donc allez-y, consultez cet épisode. Ça vous donnera une réponse beaucoup plus précise, mais il faut un peu de prudence pour ne pas vous brusquer et ne pas vous braquer. Voilà. Autre question, c'est Monsieur Ba qui m'écrit. Le mois dernier, j'ai envoyé de l'argent au bled. Deux semaines après, on m'a encore demandé de l'argent pour un oncle malade. J'ai pris mon appartement, je suis dans le rouge. Comment expliquer à la famille que l'argent ne pousse pas dans les arbres? Bon, c'est un peu ironique et c'est délicat aussi. Donc, alors, c'est tout simple. Vous avez pris un appartement, vous avez une nouvelle dépense. Donc, vous connaissez vos sorties d'argent et vos revenus. Regardez qu'est-ce qui est prioritaire. Et puis, des fois, peut-être qu'il faut expliquer, il faut savoir dire non, tout simplement. Parce que si vous ne payez pas votre loyer, vous risquez d'être expulsé ou de vous retrouver avec une dette de loyer. C'est très pénalisant avec des pénalités derrière. Donc, comment faire? Comment expliquer à la famille? Il faut dire à la famille que tout simplement, votre situation a changé et que vous n'avez pas les largesses d'avant. C'est très difficile à expliquer, mais moi, je vous souhaite aussi un peu plus de diplomatie, de fermeté et de courage. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Autre question, donc ça c'est un peu positif. Je me sens mieux quand je dépense pendant les soldes, la Black Friday, les opérations promotionnelles. Je ne me contente pas de mon compte, mais je puise aussi dans mon livret A. Il avait 6000 euros et là il ne reste que 50 euros. J'aimerais épargner et arrêter cette gabégie, voilà, c'est ce qui est écrit. Bon, c'est une très bonne décision. Sachez que vous êtes une dépenseuse peut-être compulsive et le seul moyen, c'est également faire votre budget et puis ça, regarder si vraiment vous avez besoin de succomber aux promotions. Et puis, ce qui pourrait être bien, c'est peut-être pas un livret A, mais peut-être envisager une solution d'épargne un peu bloquée où vous ne pourrez pas retirer facilement. Et puis, bon, laissez-en un petit peu sur votre livret A parce que vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain. Mais regardez vraiment si ce que vous achetez pendant les soldes, pendant les promos, en valent vraiment la peine. Donc, posez-vous la question, quelles sont vos priorités? Votre projet ou flamber pendant les soldes? Voilà. La prochaine question, donc c'est un certain Mathieu qui m'écrit, donc il me dit « Je paye tout en carte avec le sans contact, ça désorganise tout, peut-on supprimer le sans contact? Je n'en ai pas besoin. » Alors, sachez que le sans contact, c'est une option dans les cartes qui est activée par défaut. Il est possible sur simple appel ou sur simple écrit à sa banque de la désactiver. Mais aussi, il est possible, depuis l'application bancaire, pour certaines banques, de la désactiver quand on le souhaite. Donc, c'est très facile à faire. Et puis, il faut vous méfier du sans-contact parce que c'est des petits montants, mais à la fin, on se retrouve quand même avec une grosse sortie sur le compte. Voilà. Autre question, comment être bon gestionnaire de mon argent? Alors, pour être bon gestionnaire de son argent, c'est une question très compliquée. Tout simplement, connaissez-vous vos revenus, vos entrées? Connaissez-vous vos sorties? Connaissez-vous vos projets? Connaissez-vous tout ce que vous avez à faire? Donc, partant de là, vous serez un bon gestionnaire. Par exemple, quelqu'un qui a envie d'acheter une voiture, qui met de côté, va gérer différemment que quelqu'un qui se prépare, par exemple, pour acheter sa maison dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, forcément, la bonne gestion va avec le niveau de vie, le coût de la vie, le niveau de revenu. Donc, utilisez-vous les outils. Un bon gestionnaire s'appuie sur des outils. Planifie ses dépenses, planifie ses sorties, organise tout. Donc, une organisation, une définition de vos ambitions, mais aussi servez-vous des outils. Donc, ça va très bien vous aider. Voilà. La prochaine question, c'est une question de Aïcha. Donc, Aïcha me dit, j'ai une petite carte Electron. Mon conseiller me propose une carte Visa. Je ne sais pas quoi lui dire. Cher Aïcha, sachez que vous avez une petite carte Visa Electron. Mais avant de vous dire si votre conseiller a raison ou non, quels usages destinez-vous à votre carte? Est-ce que vous voyagez beaucoup? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup retirer? Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous achetez beaucoup sur Internet? Donc, regardez comment utilisez-vous votre carte? Combien avez-vous besoin de retirer par semaine, par jour à votre banque? Quels sont vos projets, vos loisirs? Selon ce que vous avez, donc une carte au-dessus, c'est une carte d'une gamme au-dessus, c'est des services au-dessus, mais aussi c'est aussi un tarif au-dessus. Donc posez-vous des questions, allez-y voir sur le site de votre banque, vous avez différentes cartes qui sont proposées, regardez-les et les services rendus, les assurances incluses dans cette carte, vous pourrez faire votre choix. Donc, mais ce n'est peut-être pas forcément une bonne ou une mauvaise idée de changer de carte. Regardez si cette carte vous convient. Dans ce cas-là, restez-y. Si ça ne vous convient pas, optez pour un changement. Et il est aussi possible de négocier peut-être le prix, tellement il insiste. Donc, dites-lui, voilà, pour faire plaisir, mais faites-moi aussi un prix. Voilà, c'est comme ça. Tout se négocie dans la vie. La prochaine question, c'est un peu philosophique. Que pensez-vous d'Apple Pay, Paylib? Alors, il s'agit des paiements mobiles totalement dématérialisés. Bon, moi j'ai envie de dire c'est ludique, ça va très vite. Donc, mais vigilance par rapport à ces paiements qui sont totalement dématérialisés. Sachez que on voit pas beaucoup ce qui se passe. Donc, moi j'ai envie de dire bon voilà, moi je l'ai fait pour le fun, pour regarder un petit peu comment ça fonctionne. Mais je reste tout attaché à ma petite carte plastique. Ça me rassure de l'avoir sur moi. Et puis je me dis, si je perds mon téléphone ou des choses comme ça, et que mon code arrive à se faire craquer, je suis pas très sûr. Donc voilà. Donc vigilance, testez-y, mais voilà, c'est pas là-dessus que repose le sujet le plus important. Voilà. Une autre question, un peu plus compliquée, celle-là. Ma banque me sert à rien. Je me suis désabonné de magazines. On me prélève avec la carte et mon conseiller me dit qu'il ne peut rien faire. À quoi il me sert? Bon, sachez que aujourd'hui il y a deux types de prélèvements sur le compte. Le prélèvement avec mandat SEPA, ça c'est très facile à révoquer ou à opposer. Et le prélèvement carte, malheureusement, pour l'arrêter, il faut stopper la carte. Donc on ne peut pas stopper un prélèvement par carte à moins d'arrêter la carte. Donc, voilà. Donc, revenez voir votre conseiller et puis faites opposition à cette carte. Vous aurez une nouvelle carte, sans doute avec des frais, mais au moins, vous aurez au moins réglé le problème. Alors, cette question, c'est une question de madame. Non, c'est plutôt Khadija. Khadija, elle m'écrit: je ne retrouve plus mon chéquier. Je fais des cauchemars la nuit. J'ai peur qu'on vole mon compte. Est-ce qu'il y a une solution? Bon, sachez que si vous avez perdu votre chéquier, est-ce que vous vous souvenez, vous avez gardé en fait un seul chéquier chez vous? Si vous vous en souvenez pas, il faut immédiatement appelez ou vous rendre dans votre banque pour faire opposition à ce chéquier. Allez-y les voir. Donc, pour faire opposition, ça permettrait déjà de refuser tout chèque qui se présente sur le compte volé. Donc, ça évitera au moins que votre compte soit vidé. Donc, il y a cette solution-là à l'opposition au chèque. Donc, allez-y, c'est la première démarche à faire. Et puis, aussi, sans doute, votre banque vous a proposé ce qu'on appelle une assurance de vos moyens de paiement. Donc, n'hésitez pas à les appeler aussi pour demander conseil parce que souvent, ces assurances vous couvrent en cas de vol de vos chéquiers, de vos cartes bleues. Donc, demandez-y. Si ce n'est pas le cas, il est temps d'y penser et peut-être d'envisager de souscrire une assurance de moyens de paiement. Mais soyez rassurés, il faut tout de suite prévenir votre banque pour que le nécessaire soit fait. Voilà, j'ai une question donc d'un étudiant qui dit: j'avais 500 € sur mon compte et il me reste que 200 €. Les impôts se sont servis sur mon compte et il reste plus rien. C'est une amende. C'est quoi? Est-ce que l'État peut tout me voler? Donc sachez qu'aujourd'hui, quand vous payez pas une amende ou quand vous recevez pas une amende chez vous, au-delà d'un certain délai, les impôts font ce qu'on appelle une saisie sur votre compte et vous prennent à la fois l'amende majorée, et en plus, vous ajoutez les frais bancaires. Et aucune banque ne peut s'opposer à un prélèvement de l'État. Donc, c'est une saisie, c'est une opération un petit peu judiciaire. Donc, sachez que voilà, il faut régler les amendes dans les délais. Et puis, allez-y voir l'administration. Si tout a été réglé, faites une vérification. Au moins, ça vous évitera des surprises par la suite. Voilà. Donc là, j'ai deux heureux amoureux qui partent à Bangkok. Nous partons à Bangkok cet été. On me parle d'assurer mon voyage avec la carte. Et est-ce qu'avec nos cartes Visa, on est assuré contre l'annulation? Alors, sachez qu'il y a différents types de cartes Visa. Il y a les cartes Visa classiques et les cartes Visa premiers. Normalement, les cartes Visa premiers incluent des assurances voyage contre l'annulation, la perte de bagages et même l'absence de neige. Donc, regardez le type de carte que vous avez et puis vous pouvez regarder si c'est une carte Visa premier. Dans ce cas-là, demandez confirmation. Sur le dos de la carte, vous avez un numéro. Appelez-les pour poser la question. Sinon, appelez votre conseiller bancaire. Si c'est une carte Visa classique, vous n'avez pas l'assurance annulation. Vous avez juste l'assurance en cas de décès ou d'invalidité ou le rapatriement médical. Mais selon le type de carte, vous aurez la documentation sur le site internet. Alors, donc, dans le voyage encore cet été, alors dis donc, cet été, il y a pas mal de gens qui partent. Donc, je pars en Espagne. J'étais parti en Espagne plutôt cet été. J'ai voulu louer un véhicule. Le loueur m'a refusé ma carte car il est marqué débit. Pourtant, j'avais 2000 euros sur mon compte. Sachez que ce que vous avez sur votre compte n'a rien à voir avec le type de carte que vous avez. Donc, souvent, quand vous partez beaucoup à l'étranger, donc les loueurs de véhicules ou les hôtels veulent absolument que vous ayez ce qu'on appelle une carte de crédit. Une carte de crédit, ils veulent que ça soit marqué dessus. En général, les cartes qu'ils appellent crédit, c'est des cartes ici qui sont à débit différé. Donc, ce n'est pas la même chose que les États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, quand ils voient que c'est débit, ils refusent même si c'est une carte Visa premier. Donc, si vous êtes un voyageur régulier et que vous avez besoin de louer des choses à l'étranger, optez pour des cartes où l'appellation crédit existe. Peut-être que c'est des cartes à débit différé. Regardez-y si ça a du sens. Comme ça, vous éviterez le problème parce qu'ils sont compliqués dans une langue étrangère à expliquer tout ça. Voilà. Donc, regardez-y ce qui est mieux pour vous. Autre question, là, il s'agit de deux gamers. J'ai acheté deux cartes de PlayStation. On m'a prélevé deux fois. La banque refuse de me rembourser. Sachez que là, il s'agit typiquement d'un petit litige avec un commerçant. Donc, si le commerçant vous a prélevé deux fois par le paiement de la carte, allez-y tout simplement le voir. Dites-lui, monsieur le commerçant, j'ai acheté ici et on m'a prélevé deux fois. Est-ce que c'est normal? Et comme ça, il vous rembourse. Donc, vous allez lui montrer votre facture et comme ça, il peut vous rembourser. Après les touristes, bon, on va rentrer un petit peu dans les problèmes de ménage. Ma femme a ouvert un compte en cachette. J'ai vu le courrier d'ouverture par hasard. Je me rends à la banque. À l'accueil, on refuse de me renseigner. Ah, c'est quand même ma femme. Bon, sachez que votre statut marital ou votre situation matrimoniale n'a rien à voir avec le fait que votre femme ait un compte bancaire. Le secret bancaire existe. Donc, si votre femme avait voulu que vous ayez accès à son compte, elle aurait mis en place une procuration où vous auriez fait un compte joint. Ce n'est pas une raison d'aller l'engueuler. Hein. C'est juste que le secret bancaire doit être respecté et la banque a tout à fait le droit de ne pas vous donner accès à son compte, peu importe votre statut. Donc, la seule voie qui vous reste, c'est la diplomatie à la maison. Et bon, à la pensée-y, à ramener des fleurs et des chocolats, ça passera mieux. Voilà. Là, il s'agit d'une femme un petit peu éconduite par le mari. Mon mari, on est en train de divorcer. J'ai demandé à la banque de ne pas accepter les chèques car c'est sûrement pour sa maîtresse. Bon, il y a un petit nom d'oiseau à côté, mais je ne vais pas vous le dire. C'est pas compliqué comme demande. Alors, sachez que si vous avez par exemple un compte joint, même si vous êtes en train de divorcer, tant que vous n'avez pas fait ce qu'on appelle une désolidarisation au niveau du compte et que un des titulaires, vous ou votre ex-mari ou votre ancien mari, peut utiliser les moyens de paiement, le chéquier, la carte bleue, et un seul peut engager l'autre. Vous n'avez pas, il n'a pas besoin de votre accord, sauf des cas très 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 spécifiques de compte. Voilà, c'est pour ça que votre demande n'a pas été acceptée. Voilà. Autre question, j'ai mis de l'argent sur le compte de mon fils. Il ne m'écoute pas, je vais récupérer mon argent. Le monsieur refuse, c'est quand même mon argent. Alors, il y a deux cas de figure. Soit votre fils est majeur, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas ponctionner son compte à votre guise. Soit votre fils est mineur. Et sachez que la réglementation, aujourd'hui, interdit aux parents d'aggraver la situation des enfants. Donc, dans ce cas, vous ne pouvez pas effectuer des retraits sur le compte des enfants. Donc, vigilance par rapport à la réglementation. Voilà. La question, il s'agit d'un ex qui règle ses comptes. Mon ex ne me verse pas de pension alimentaire. Il a le culot de me demander de casser le livret A de notre fils. Enfin, j'ai refusé. J'ai peur qu'il me double à la banque. Alors, sachez que aujourd'hui, si la banque respecte et est vigilante aussi sur la réglementation, aucun des parents ne peut faire des retraits sur le compte de l'enfant sans que l'autre puisse apposer sa signature. Donc, et en plus, cette vigilance est doublée d'une autre vigilance, c'est qu'on ne peut pas aggraver la situation des mineurs. Donc normalement, la banque n'a pas à ouvrir les vannes pour le papa qui se présente. Et puis, le fait qu'il ne paie pas sa pension n'a rien à voir avec la situation bancaire. Donc ça, c'est deux choses différentes à distinguer. Donc il faut être tout simplement vigilant et par rapport à cette situation-là, donc cachez bien la petite carte de la carte du livret, on ne sait jamais s'il tombe dessus. Une question un peu plus préoccupante. Donc, suite au décès de mon père, la banque refuse que je ponctionne sur son compte pour payer les pompes funèbres. C'est moi son héritier. Bon, sachez que vous êtes héritier, mais peut-être qu'il y a des héritiers cachés, donc on ne le sait pas. Et puis, suite à une déclaration de décès, les comptes sont arrêtés en attendant l'intervention soit d'un notaire ou qu'on recherche tous les héritiers et qu'on paye les dettes avant que le compte soit clôturé et que le solde soit versé aux héritiers. Donc, je ne dis pas que c'est une situation normale, mais est-ce que votre papa avait une assurance décès? Donc, regardez-y, mais la banque aujourd'hui ne peut pas vous donner les fonds comme ça, à moins que ça soit un compte joint tous les deux. Dans ce cas-là, oui, mais si c'est un compte monotitulaire, individuel, vous n'y avez pas le droit. Voilà. Donc, on enchaîne avec une question sur un conseiller qui n'est pas vraiment apprécié par son client. Le conseiller peut-il me retirer ma carte? Est-ce que c'est un abus de pouvoir? Alors, le conseiller peut vous retirer la carte. Aujourd'hui, la banque peut vous retirer la carte suite à une utilisation abusive de cette carte. Donc, souvent, vous êtes alerté, vous êtes prévenu. Donc, mais le conseiller, sur mandat de la banque, peut agir ainsi. Ce n'est pas forcément un abus de pouvoir, c'est justement peut-être une mesure pour aussi protéger les deux parties. Alors, j'ai une question qui est très facile. Donc, c'est quoi la mobilité bancaire? Alors, la mobilité bancaire, c'est une mesure qu'on appelle la mobilité bancaire, la loi Macron. Ça permet à chacun de transférer son compte de dépôt, son compte courant à une autre banque sans le clôturer dans la banque d'avant. Vous allez dans la nouvelle banque, vous signez un mandat, une autorisation, et toutes les opérations sont rapatriées dans l'autre banque, les salaires, les virements, les prélèvements. Donc ça s'appelle la mobilité bancaire et c'est très facile à faire. Voilà. Une autre question plutôt philosophique. Ma religion m'interdit les intérêts. Je veux fermer mon compte. Voilà, j'ai juste ça comme ça. Bon, sachez que si votre religion vous interdit les intérêts, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte avec des intérêts. Vous pouvez juste avoir un compte de dépôt sans intérêt. Et puis peut-être qu'il est temps que vous regardiez un petit peu en France si vous avez des banques en accord avec votre religion. Question, alors ça c'est la dernière, où trouver des bitcoins? Donc les bitcoins, très bien. Alors les bitcoins, c'est un autre sujet dans d'autres épisodes, Les bitcoins, on peut en trouver partout sur Internet, mais vigilance, vigilance, parce que il y a des faux sites, il y a eu surtout des arnaques. Donc, il faut être vigilant avant d'acheter ces produits-là. Je n'ai pas très envie de vous donner des pistes puisque je ne vais pas être responsable et je ne connais pas du tout ce type d'épargne. Voilà, donc vous avez vu un petit peu un certain nombre de questions qui m'ont été posées. Moi, je serais très ravi d'échanger, de recevoir vos témoignages si vous avez envie de témoigner, de réagir, de proposer un sujet. Envoyez vos questions au 07 83 653 96 sur WhatsApp. Vous pouvez utiliser Facebook Messenger pour envoyer vos questions avec la page Facebook PAEF. Utilisez la chaîne YouTube également, soit en commentaire ou trouvez mon email sur les différentes pages. Alors, vous pouvez écrire à parlons au argent entre fauchés au pluriel @gmail.com. Vous pouvez poser vos questions. Si cette libre antenne PAEF info réaction vous a plu, tout ce que je peux vous recommander, c'est d'en parler-en autour de vous, de le partager, mais surtout, allez-y, recommandez le podcast sur des plateformes d'écoute. Merci et à très bientôt.